RMC Intégral Euro.
Went for it and it is in from Harry Kane again.
Para Alba va a venir el tercero, Morata gol.
Qui vous attend ce soir dans l'intégrale Euro sur AMC 18h. Salut à tous, merci d'être avec nous. On est ensemble jusqu'à 19h avant de donner la main à Christophe Cessieu et toute l'équipe de l'After Tour pour le débrief de la 15e étape de ce Tour de France et la nouvelle victoire de Tadej Pogacar qui assomme encore un peu plus la grande boucle. Mais c'est jour de finale. Espagne-Angleterre, c'est ce soir à 21h pour savoir qui sera sacré champion d'Europe. Deux coachs d'exception sont avec moi aujourd'hui pour en parler. Coach Courbis et le meilleur coach de Ligue 1, Éric Roy. Salut messieurs.
Salut les amis, salut Eric.
Bonjour Flora, salut Roland. Comment il va mon coach?
Ça va bien? Écoute, ça va.
Que c'était mon coach avant que je sois coach quand même.
Ah oui, c'est ça qui est fou. Et vous êtes mes coachs à tous les deux aujourd'hui. Messieurs, il y aura Julien Laurence et Fred Armel aussi, nos deux drôles de dames dans quelques instants. Et puis enfin, on se posera la question de savoir si c'est la bonne année pour l'Angleterre et pour Harry Kane, ou alors est-ce que la génération dorée de l'Espagne est partie pour régner sur l'Europe? La réponse est tout de suite et toute la soirée sur RMC. C'est le jour J, la grande finale de l'Euro sans l'équipe de France, hein, malheureusement, mais on va se régaler quand même. Angleterre-Espagne, c'est ce soir à 21h, l'affiche entre le grand favori avant le début de l'Euro et la révélation de cette compétition. On parlera de l'Espagne tout à l'heure et de sa petite pépite, Lamine Yamal. Julien Laurence sera avec nous, mais d'abord, on va retrouver Valentin Jamin qui est avec nous depuis Berlin où il suit les Anglais. Salut Valentin.
Bonsoir les amis, bonsoir à toutes et à tous.
Quelle pression hein, quand même sur les épaules de cette sélection anglaise. 58 ans d'attente, voilà ce qui pèse sur la sélection de Gareth Southgate aujourd'hui.
Oui, ça fait beaucoup pour pays berceau du football, hein, l'Angleterre évidemment. Depuis le Mondial 1966 à domicile, aucun titre pour les Anglais. Ils courent après, ils s'en rapprochent doucement, mais c'est vrai que ça met forcément une pression quand on est un pays comme l'Angleterre, qu'on produit autant de talents, qu'il y a autant de fans de foot, qu'on a les meilleurs clubs parfois du monde et qu'on n'a pas de trophée depuis 1966. Ça fait un petit peu tâche. La preuve quand même de cette attente, c'est qu'aujourd'hui, alors il y a un quota par pays dans les stades qui est distribué. Aujourd'hui, on est à peu près à 10 000 places par pays et il y a plus de 30-40 000 Anglais qui se sont déplacés à Berlin, donc beaucoup sans ticket, juste pour faire la fête, juste pour vivre le moment, juste pour vivre cette finale. Donc c'est la preuve de l'attente, de la pression, de tout ce pays qui s'est uni aussi derrière sa sélection malgré le jeu, et vous allez sûrement parler poussif, on va dire, avec des qualifications au tir au but, parfois dans le temps additionnel, parfois en prolongation, uni aussi un petit peu derrière Gareth Southgate. La presse qui est très critique s'est mise un petit peu à moins critiquer justement le sélectionneur qui a un bilan tout de même, une demi-finale de Coupe du Monde, un quart de Coupe du Monde, c'est sa deuxième finale d'Euro puisque les Anglais étaient finalistes il y a 3 ans. D'ailleurs, Harry Kane a dit que l'équipe s'était beaucoup servie de cet échec, cette défaite au tir au but contre l'Italie. Ça montre notre caractère, c'était très dur, mais voilà, on a appris en tant que groupe, c'est pour ça qu'on est là. Alors que Gareth Southgate lui a dit que jouer ces matchs justement de très haut niveau, être souvent dans le dernier carré, ça permet aussi de comprendre comment finalement aller au bout. Donc il y a énormément d'espoir. Effectivement, c'est la première finale aussi hors du pays pour les Anglais et ils veulent ramener le football à la maison et peut-être que ce soir ils pourront dire définitivement football is coming home.
Merci Valentin, tu restes évidemment avec nous. On va accueillir Julien Laurence, notre drôle de dame anglaise. Salut Julien.
Salut Flora, salut à tous.
Toi qui suis salut cette sélection anglaise et qui vis au quotidien en Angleterre, on le rappelle, à quel point justement ce manque de titres dont on vient de parler depuis presque 60 ans maintenant, il est au cœur de toutes les discussions quand il s'agit des Three Lions?
Tout le temps, tu as raison, tout le temps. C'est une vraie, enfin, eux le vivent comme une vraie malédiction. Hein. Pas simplement ce qui s'est passé depuis l'arrivée de Southgate et les meilleurs résultats. Parce que c'est vrai que depuis 66 et leur victoire, ça avait été quand même catastrophique dans l'ensemble, à part un quart de finale par-ci par-là. Mais c'est vrai que ça a toujours été très compliqué. Donc ils l'ont vécu, eux, un pays de foot pareil, comme une vraie malédiction. Ils ont longtemps espéré qu'un Capello, qu'un Eriksson ou que ce genre d'entraîneur-là, de ce calibre-là, enfin surtout pour Capello, puissent justement casser la malédiction et les faire gagner de nouveau, ou en tout cas les faire espérer de nouveau, et même Capello n'avait pas réussi. Donc c'est vrai que c'est une dynamique complètement différente cette fois. C'est vrai aussi que Valentin l'a dit, hein, il y a des très très bons résultats depuis l'arrivée de Southgate, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Southgate, qu'on le trouve bon ou pas bon comme moi. C'est vrai que bon. Sur le terrain, en tout cas, les résultats ont été là, mais ils ont aussi la meilleure génération sûrement depuis les années 60.
Ouais.
Donc à un moment, il fallait quand même que cette génération-là aussi, elle puisse sur le terrain terrain, montrer tout son talent.
Ouais, justement, on va en parler de cette génération. Eric, coach, c'est vrai que quand on se dit, on voit cette équipe-là, on se dit que c'est peut-être la bonne année, enfin, enfin pour eux. Eric, tu as connu évidemment l'Angleterre, tu les connais, hein, tous ces joueurs qui composent la sélection aujourd'hui. S'ils ne gagnent pas aujourd'hui avec l'armada qu'ils ont sur le terrain, quand est-ce qu'ils vont gagner?
C'est la problématique, c'est parce que c'est vrai que maintenant il faut gagner, tout simplement. Et c'est vrai qu'on apprend souvent dans les défaites, et l'équipe de France l'a fait. À un moment donné, ils ont dû effectivement essuyer quelques revers pour après gagner. Mais maintenant, il faut le faire, parce qu'il y a eu des générations dorées dans beaucoup de pays qui n'ont jamais gagné. Et ça, c'est arrivé aussi. Donc pour Southgate, il est évident que voilà, il a été beaucoup critiqué. Il sera un héros s'il gagne, mais s'il gagne pas, il sera malgré tout catalogué comme un loser. Donc maintenant, il faut le faire, et gagner une finale, c'est jamais simple. Roland avait tendance à dire que quand on est obligé de gagner un match, c'est toujours plus compliqué.
Coach, c'est vrai, t'as dit ça.
Mais c'est sûr. Donc, mais bon, je vous donne mon point de vue. Je suis ça avec beaucoup d'attention. On est tous passionnés, mais j'en ressors dans ma réflexion que ce soit un entraîneur, que ce soit un sélectionneur, les qualités pour moi de cette personne-là, c'est est-ce qu'il tire 100% de l'effectif qu'il a à sa disposition. Et là, il peut y avoir pas mal de débats. Ensuite, pour le match de ce soir, ben, je crois que on s'est tous amusés à pronostiquer avant l'Euro. Ben, par exemple, moi, mon pronostic, c'était Allemagne, Angleterre, France et Espagne comme outsider. Mais favori, je mettais ces trois-là. Et quand j'ai vu à quoi ça a pu se jouer contre l'Allemagne, ben, je trouve dommage l'Allemagne contre l'Espagne, je trouve dommage qu'il y ait eu ce match-là, parce qu'on aurait pu peut-être voir d'autres bons matchs. Bon, bref, donc... En gros, et j'écoute toujours ce que nous dit Julien, moi j'attends avec impatience le match de ce soir. En plus, c'est dans une journée un petit peu particulière, puisqu'il y a Alcaraz qui vient déjà...
Il y a le premier match...
De gagner non pas contre l'Angleterre, mais
Wimbledon. Il a gagné à Wimbledon.
Donc, et là, voir ce soir les Anglais ne pas gagner, ben, moi sincèrement, je les vois gagner.
Tu les vois gagner. Julien, c'est vrai qu'on parlait de Gareth Southgate, tu as une image, évidemment, toi, hein, tu n'apprécies pas forcément ce sélectionneur, tu n'es pas le seul. Hein. D'ailleurs, il a beaucoup été critiqué avant le début de l'Euro, même ces dernières années, pour le jeu proposé parfois par l'Angleterre, pour ses choix aussi, parce qu'il s'est privé de beaucoup de grands joueurs aussi à cet Euro.
Ouais, c'est vrai, t'as raison. Alors moi, les auditeurs le savent, hein, de toute façon, mais c'est vrai que j'ai jamais été convaincu. Il a jamais rien gagné en tant qu'entraîneur de club, et je pense qu'après, une fois que ce sera terminé avec l'Angleterre, je sais pas ce qu'il fera, je sais pas s'il retournera dans coacher un club, mais je serais pas surpris non plus si derrière il y avait pas non plus beaucoup de succès. Pour moi, qu'il ait mis autant de temps, par exemple, à reconnaître que Kobe Mainoo était un joueur dont cette équipe avait énormément besoin, alors que depuis, on le voit en championnat avec Manchester United depuis le début décembre, je comprendrai jamais comment il a pu choisir Trent Alexander-Arnold au milieu de terrain, qui est pas un milieu de terrain, et Conor Gallagher qui arrive même pas à la cheville de Kobe Mainoo. Donc voilà, pour moi, l'incompétence, elle est là parfois dans ce qu'il peut faire. Alors après, là, il a trouvé la bonne équipe, très bien. Ils ont eu beaucoup de réussite dans ce tournoi. Très bien aussi, la réussite, je pense que tu la provoques souvent. Donc voilà, bravo à eux, ils ont ce caractère incroyable, ils ont cette baraka, tant mieux. Il a pacifié l'environnement autour de la sélection, on l'a dit, mais dans ses choix, la plupart du temps, faut quand même reconnaître que c'est pas génial. Et pas mal de joueurs dans ce groupe-là actuel lui ont beaucoup reproché, par exemple, d'avoir laissé un Jack Grealish à la maison. Donc oui, il y a des choses qui sont surprenantes, mais comme on dit toujours, s'il gagne ce soir, eh ben, il aura eu toujours raison, et voilà.
Ouais. Et c'est vrai qu'on parlait.
N'exagérons pas quand même. Hein. On va déjà regarder le match. on va déjà voir ce qui se passe. Il y a souvent des choses, et je m'en suis aperçu tout au long d'une carrière. Des fois tu es inspiré, des fois tu ne l'es pas. Et des fois aussi, ben, la phrase on la connaît, le hasard fait bien les choses. Quand je vois qu'on peut changer un joueur qui marque dans la minute d'après, eh ben là ce soir-là tu es bien inspiré, mais après pour voir tes qualités il faut quand même voir un petit peu plus large. Moi quand je regarde l'effectif de l'Angleterre et que je vois Kane, Foden, Bellingham et Saka pour former un quatuor offensif, eh ben j'aurais aimé tout au long de ma carrière avoir ce quatuor offensif. Oui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Bon, après tu en as beaucoup parlé des forces des Bleus aussi, ça n'a pas non plus trop fonctionné cette année, mais Eric, sur Gareth Southgate, Gate, toi tu sais ce que c'est que la vie de coach aussi, d'être critiqué parfois pour des choix ou pas forcément être soutenu, c'est encore autre chose quand on est sélectionneur évidemment, mais ces choix, ils ont été faits, lui il n'est pas suivi forcément par tout le monde, il y a cette défaite aussi il y a 3 ans, il n'a pas d'autre choix là, cette année maintenant de gagner finalement.
Ben oui, c'est vrai que pour lui, je pense que ce match il est très très important pour la suite aussi. Mais après, bien sûr, comme j'ai dit, pour cette génération après. Alors Roland l'a dit, il y a de la réussite, mais il faut toujours de la réussite dans un tournoi final. Il y a aussi quelque part quelques inspirations malgré tout, avec des changements, et on l'a vu sur le dernier match avec un joueur qui rentre et qui marque tout de suite. Donc voilà, il y a eu aussi des matchs qui ont été arrachés comme ça dans les dernières minutes, mais c'est l'histoire aussi forcément d'un titre. Et s'il gagne ce soir, forcément ça sera lui qui aura eu raison, il fera taire beaucoup de monde. En même temps, ce qu'il a pour lui, c'est que depuis le début de cette compétition, il a quand même beaucoup de ses joueurs majeurs qui sont pas dans la meilleure de leur forme.
Ouais, donc on peut se dire que ce soir, comme un peu toutes les sélections aussi à cet Euro finalement.
Pas les Espagnols. Si on fait le comparatif, les Espagnols globalement, j'ai l'impression que c'est vrai qu'ils ont été les plus convaincants. C'est vrai que dans les contenus de match, c'est eux qui ont pratiqué le meilleur football. Mais c'est vrai que les jeunes se sont vraiment révélés. Les joueurs majeurs de cette équipe espagnole, comme Rodri, tout ça, ils restent à leur niveau. Mmh. Olmo, il s'est aussi révélé quand même dans cette compétition, alors qu'il n'était pas titulaire au départ. C'est-à-dire que, voilà, la défense, c'est la défense. On pensait à une défense peut-être un petit peu lente, un petit peu éventuellement dépassée. Mais globalement, ils ont été au niveau. Donc, eux, ils sont vraiment à leur niveau. Les Anglais, on sent qu'ils en ont... puisqu'on vient de voir le tour là, ils en ont encore sous la pédale, j'ai l'impression. Et sur ce match là s'ils sont effectivement à leur véritable niveau, ils peuvent gagner, comme le pense Roland. Moi, c'est vrai que par rapport à tout ce que j'ai vu depuis le début, j'imagine que ça sera plus l'Espagne, mais en tous les cas c'est ça le football, c'est qu'on sait jamais ce qui va se passer.
Ouais, c'est la surprise, coach.
Mais oui, disons que bon, je me suis aperçu tout au long de ma carrière, qui a été assez longue, et je le dis et je le répète, ça n'a rien à voir un match de poule, un match de 8e de finale, je ne parle même pas des matchs aller-retour quand on est non pas sélectionneur et qu'on est un entraîneur. Et une finale pour moi c'est un événement, c'est un match à part. Et je m'imagine un match totalement indifférent. C'est logique de dire que jusqu'à cette finale, les Espagnols, ben on séduit tout le monde et tous les passionnés de football, avec un petit peu de réussite aussi. Eric a souligné le cas d'Olmo. Eh ben, quand par exemple tu as un joueur qui est pas titulaire et que tu as un joueur qui se blesse et notamment comment s'appelle Pedri.
Oui.
Donc et tu le remplaces par Olmo qui finalement va être peut-être
il est encore meilleur.
Un de tes 3 meilleurs joueurs. Eh bien, à ce moment-là, tu te dis bravo. Et le sélectionneur de l'Espagne, eh bien, lui aussi, il a envie et il pense qu'il serait logique de gagner. Mais oh là,
on en parlera.
Le football, je ne vais pas vous l'apprendre.
On parlera des Espagnols, évidemment, tout à l'heure.
La logique, comme moi, c'est des fois totalement différent.
On parlera des Espagnols tout à l'heure avec Fred Hermel. Valentin, qui est toujours avec nous, tu as suivi évidemment la conférence de presse hier de Gareth Southgate, d'Harry Kane aussi, qui était présent, le capitaine. Dans quel état d'esprit tu les as sentis, plutôt confiants ou alors quand même un petit peu sur la réserve avant cette finale?
Non, pas forcément ultra confiant, évidemment. Alors d'aborder une finale, il y a de la confiance, il y a peut-être un petit peu ce côté, et Julien en parlait, destin, oui. Ollie Watkins, le buteur en demi-finale, en toute fin de match, en a parlé, en disant on a l'impression un peu d'être comme le Real Madrid, on peut subir, on peut ne pas avoir la balle, et en fait ça tourne toujours de notre côté depuis le début de la compétition.
Bellingham qui a amené ça.
Exactement, non mais il a un peu évoqué comme ça, et on a un peu cette sensation que voilà, ça flotte au-dessus des Anglais, qui sont quand même conscients que on parle de l'Espagne, meilleure attaque du tournoi, équipe qui a gagné tous ses matchs, mais les Anglais ont conscience que certes il y a de la pression, mais il y a tout un peuple qui pousse derrière. Il y a cette expérience, ils en ont quand même beaucoup parlé, cette expérience de 2021 avec des joueurs qui étaient jeunes, qui étaient là. Je pense à Saka qui avait manqué son penalty. Ouais. Il est là 3 ans plus tard, il a pris l'expérience, il a un nouveau statut avec Arsenal. Donc on va pas dire qu'ils sont en surconfiance, mais avec le parcours, les embûches qu'ils ont eues, déjà être là, je pense qu'ils sont surtout très contents, et il y a peut-être cette sensation qu'ils sont portés par quelque chose d'un peu mystique sur cette compétition.
Ouais, un petit peu. Il a dit, je crois pas au conte de fées Gareth Southgate, mais j'ai bien envie que mon rêve se réalise malgré tout ce soir. Bon, messieurs, ne bougez pas. On continue de parler de l'Angleterre dans quelques instants. On va parler des stars anglaises notamment, et Harry Kane qui joue gros lui aussi ce soir, 18h14 sur RMC. Ne bougez pas, l'Intégral Euro revient tout de suite.
RMC Intégral Euro,
Flora Moussi.
18h17, on est de retour sur AMC avec Coach Courbis, avec Eric Roy dans l'intégrale Euro, à quelques heures maintenant de la grande finale entre l'Angleterre et l'Espagne. On est toujours avec Julien Laurence et Valentin Jamin. On parlera des Espagnols tout à l'heure, mais on reste pour le moment sur l'Angleterre. Messieurs, parlons un peu des stars des deux équipes et notamment d'Harry Kane. Valentin, c'est l'un des plus grands attaquants d'Europe aujourd'hui et pourtant, il est vu comme un véritable chat noir.
Ouais, c'est incroyable cette statistique. Harry Kane, 30 ans, 12 ou 13 saisons pro derrière lui et aucun titre en club et en sélection. Pourtant, tu l'as dit, c'est un attaquant immense, meilleur buteur de sa sélection, capitaine des Three Lions depuis maintenant quelques temps. Il a joué à Tottenham, il a joué au Bayern, donc des clubs quand même dominants dans leur championnat. Le Bayern, ça ne fait qu'une saison effectivement, mais n'a jamais gagné de trophée. Il a mis 44 buts cette saison, par exemple, avec le Bayern qui gagne quasiment un titre par saison. Et cette fois-ci, rien. Il a collectionné un peu les finales, deux finales de Coupe de la Ligue avec Tottenham. Il a une finale de Ligue des Champions, il a une finale d'Euro, il a une finale cette année de Super Coupe d'Allemagne, toutes perdues. Les seules distinctions, on va dire, qu'il a, c'est les titres de meilleur buteur. Par exemple, meilleur buteur Kane de la Coupe du Monde
tournoi
en 2018.
Tournoi de 6 de Pentecôte.
Demi-finale, tournoi de 6 de Pentecôte. Trois fois meilleur buteur de la Première Ligue, meilleur buteur une fois en Ligue des Champions. Mais il en a parlé hier à Harry Kane et il a dit que tous ces titres... on va dire, il les échangerait volontiers. Écoutez ce qu'il disait.
Sorry, to swap the trophies for the Euros. If I had the opportunity.
Yeah. Yeah, for sure. Est-ce que j'échangerais toutes mes récompenses individuelles contre l'Euro si j'en avais l'occasion? Oui, bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas un secret que je n'ai pas gagné de trophée collectif et chaque année qui passe, vous êtes encore plus motivé à changer cela. Demain soir, j'aurai l'occasion de remporter l'un des plus grands trophées que l'on puisse gagner et d'entrer dans l'histoire avec ma nation dont je suis extrêmement fier, l'Angleterre. Alors oui, sans aucun doute, j'échangerai tout ce que j'ai fait dans ma carrière contre une soirée spéciale et une victoire demain soir. Mais ça ne marche pas comme ça. Il y a donc beaucoup de travail à faire d'ici là. Mais oui, je suis vraiment déterminé à faire de demain soir une soirée spéciale.
Bon, il peut même marquer ce soir, être meilleur buteur de l'Euro et soulever le trophée. Mais déjà, rien que de le voir soulever l'Euro en tant que capitaine, ce serait un symbole immense pour Harry Kane.
Et tu sais, le football, il est vraiment bizarre et capricieux. Moi, voir l'Angleterre avec but de Kane...
Je sens que ça t'émeut, ça.
Ah ben, je pense que c'est fort possible.
Ouais, c'est fort
possible. Je sens que t'as parié, même.
Ouais, c'est pas possible.
Parole, non. Mais par contre, Angleterre, oui.
Julien, nous,
Kane,
c'est vrai
non,
que...
je suis pas allé jusque-là.
On l'entend avec coach. C'est vrai qu'il a bonne presse chez nous, Harry Kane. On aimerait bien le voir gagner quelque chose au moins une fois dans sa vie. C'est un peu triste de voir un grand attaquant comme ça sans trophée. Quelle image on a de lui en Angleterre? Est-ce qu'on est derrière lui? Je sais que certains réclament aussi qu'il soit peut-être plus sur le banc du côté de certains consultants. Comment il est perçu en Angleterre?
Là, c'est la première compétition vraiment où il a été discuté, ouais. On va dire, parce qu'il n'a pas l'air d'être à 100% déjà, c'est assez clair, parce que pour la première fois, surtout sur Southgate, il est sorti avant la fin du match, ce qui lui arrivait jamais avant, parce que soit il est un peu blessé, soit effectivement il n'est pas très bon, soit il y a un problème et dont on ne sait pas, peut-être qu'il a encore un peu mal à la cheville, il s'était blessé un petit peu en fin de saison avec le Bayern aussi. Donc on a l'impression qu'il y a quelque chose. Donc c'est vrai qu'il est assez discuté, beaucoup plus que par le passé où c'était vraiment le premier nom que tu mettais sur la feuille de match. Là c'est plus du tout le cas, surtout quand tu vois Ollie Watkins qui marque ce but contre les Pays-Bas. C'est un appel que Kane ne fait plus aujourd'hui. C'est un but que Kane ne marque plus aujourd'hui. En tout cas dans cette compétition-là, il marque un penalty, une tête dans les 6 mètres et un but à bout portant dans les 6 mètres aussi.
Dans un passé récent, excuse-moi de te couper, mais le penalty raté contre la France, c'est un tournant de match. Il y a peut-être les Anglais qui sont en route pour être champion du monde. Ça l'a pas arrangé.
Oui, c'est vrai, t'as raison. Non, mais puis aussi, le peut-être le plus difficile pour lui, c'est qu'on lui rabâche sans cesse, en fait, cette histoire du zéro trophée. Tout le temps, il y a cette blague. Parce qu'il a gagné un trophée, en fait. Il a gagné la Audi Cup. Et ce tournoi amical que le Bayern organisait en avant-saison et en 2009,
ça commençait
2010,
bien pourtant.
Oui, c'est un tournoi de six.
Ouais. Mais la blague en Angleterre sur partout, c'est maintenant il a gagné le Audi Cup quoi.
Ouais.
Donc c'est à un moment je pense que il en a vraiment marre et une des raisons pour laquelle selon moi il est parti au Bayern, c'était aussi pour enfin mettre fin à sa malédiction à lui. Et pour l'instant, Dani Olmo qui lui met un triplé lors de la Supercoupe d'Allemagne qui est son premier match
cette saison à Ragnar.
Le même Dani Olmo, il va le retrouver aujourd'hui dans son dernier match de la saison.
T'as vu les Leverkusen, ils se sont frottés les mains.
Ah bah ça c'est sûr. Eric, c'est vrai que quand on voit un tel joueur, il est capitaine, on rappelle aussi de cette sélection anglaise, c'est le moment pour lui aussi d'écrire son histoire avec cette sélection, même s'il l'a déjà un peu fait en étant le meilleur buteur. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de pression quand même malgré tout pour lui ce soir. Et comme Julien le disait, il n'est déjà pas à son meilleur niveau. Et si on se rajoute en plus un poids psychologique, ça peut être compliqué.
Ben c'est ce qui rend le match difficile pour les Anglais en fait, parce qu'on se dit que c'est le moment ou jamais et que maintenant après est-ce que ça se, le train repassera et c'est vrai qu'il faut maintenant concrétiser, il faut gagner et pour lui forcément il doit se mettre aussi une pression supplémentaire par rapport à tout ce qui a été dit, donc il est évident que c'est un match encore plus compliqué à préparer. Comment être très bon sur ce match qui est un match, une finale, ça reste une finale. Et alors Roland l'a dit, le scénario idéal ce serait qu'il marque et qu'il fasse gagner cette équipe d'Angleterre. Maintenant, même s'il n'était pas très bon, comme à l'image de ce qu'on voit depuis le début de l'Euro, et que l'Angleterre gagnait quand même, je pense qu'il prendrait également.
Oui,
ouais, bien sûr.
Ouais, ça, je pense qu'il signe tout de suite. Effectivement, on parle de ces stars. C'est vrai, tu le disais, Eric, qui ne répondent pas forcément présentes dans cet Euro. Puisqu'on est sur l'Angleterre, parlons un peu de Jude Bellingham aussi, qu'on attendait énormément dans cette équipe anglaise. Julien, je sais que tu ne vas pas me contredire. Il est très loin de son meilleur niveau et on attendait clairement qu'il apporte encore un peu plus, enfin même beaucoup plus, à cette équipe, anglaise.
Attendons, on va voir ce soir.
On lui souhaite, mais c'est vrai que jusque-là, Julien, il est déçu.
Ouais, tout à fait. Il est très décevant, j'ai trouvé. On en parlait un petit peu hier déjà dans l'émission, ouais, avec Fred aussi, sur le fait qu'au niveau de l'attitude, également, il y a eu quelques petits soucis. Par exemple, c'est le seul joueur de l'effectif à ne pas avoir donné de conférence de presse pendant cet Euro, ce qui a fait beaucoup tiquer et le groupe et les journalistes anglais aussi. Et il y a d'autres histoires, on ne va pas raconter maintenant parce que ça ne sert à rien de toute façon, mais parce que comme le coach l'a dit, s'il est bon ce soir, on oubliera tout ce qui s'est passé d'un peu négatif pendant ce tournoi. Mais c'est vrai qu'on attendait beaucoup plus de lui dans une position qui est finalement similaire à celle qui joue en club. Je sais qu'il ne faut pas qu'on compare le football de club et le football international parce que c'est très très différent. Mais il a quand même été mis dans des conditions par Southgate au détriment, j'ai envie de dire, même de l'équipe, parce qu'on on voit tous très bien qu'à un moment il aurait pu jouer plus bas et ça aurait aidé cette équipe d'Angleterre, notamment par rapport à Foden et par rapport à la zone de Foden sur le terrain. C'est lui qui n'a pas souhaité Bellingham jouer plus bas, il voulait jouer en 10, il a insisté pour jouer en 10 et Southgate l'a laissé en 10. Hier, je crois que c'était Steve Savidan ou Tony Verrel, je crois, qui me posait la question sur l'incident où, dans le match contre la Slovaquie, me semble, ou peut-être le quart de finale, où il voit son numéro sur le panneau des remplaçants et il fait cette tête et finalement c'est pas lui qui sort et on sait toujours pas si c'était une erreur vraiment sur le panneau ou si c'est lui par sa réaction qui a fait changer Southgate d'avis. Ce genre de scène là ça devrait jamais arriver à ce niveau là peu importe finalement ce qui s'est passé. Et donc c'est vrai que c'est plutôt décevant pour l'instant, mais c'est un jeune joueur encore une fois. Il a joué à la Coupe du Monde, mais c'était vraiment cette première compétition au statut auquel il est maintenant. Voilà, et donc je pense qu'il apprendra beaucoup ce qui s'est passé ici en Allemagne.
Et ce soir, même si elle ne sait pas, disons, un 4-2-3-1, est-ce qu'on ne va pas avoir, c'est ce que je disais ce matin, un Bellingham-Rodri, presque très
dans
souvent
la
dans la même zone. Et est-ce que ce match dans le match ne va pas donner le ballon d'or?
Peut-être coach.
Bon courage pour répondre, Julien.
Ouais, peut-être, mais je sais pas. Pour moi, Rodri, c'est un des meilleurs du monde et je comprends pas qu'il
soit snobé
de cette façon-là dans les
récompenses individuelles.
Oui, sauf que Rodri, Ballon d'Or, la saison dernière sur le triplé, peut-être plus que cette année-là sur un seul titre de champion d'Angleterre, par exemple, avec un euro, d'accord, mais.
Est-ce que ça peut échapper à un joueur du Real Madrid aussi, c'est ça l'honneur.
Mais pour surtout, Bellingham et Rodri, il n'y a pas photo sur la saison globale et sur cette compétition-là.
Eric.
Mais au-delà du Ballon d'Or, je peux que ce duel-là, il peut
décider
faire basculer
match,
la finale, décider du match. Parce que moi, par exemple, quand j'ai vu les Espagnols, je les ai trouvés plus en difficulté contre les Allemands, par exemple, parce que Gundogan n'a pas fait un marquage individuel, mais presque. C'est-à-dire qu'il était toujours dans la zone de Rodri. Dès qu'il touchait le ballon, il était assez proche, donc il a empêché de donner vraiment le tempo à cette équipe d'Espagne. Et on l'a vu dans ce match-là, l'Espagne perd à un moment donné la conduite du jeu, la possession du ballon. On l'a vu dans ce match-là, à un moment donné, cette équipe espagnole être en difficulté. Parce que justement, Gundogan a joué ce rôle-là. En France, avec l'équipe de France, on n'est pas arrivé à le faire, je trouve.
Ouais, il était très libre.
Une des clés du match,
notre
malheureusement.
C'était justement où il n'y avait aucun dans cette zone-là. Chaque fois qu'il avait le ballon, le premier adversaire, il était à 10 mètres.
C'est le problème. Et c'est vrai que quelque part, sur ce match-là, et si Bellingham doit se sacrifier sur ce match-là, il faut vraiment qu'il le fasse. Et ça peut également, même s'il est très proche de quand ils n'auront pas le ballon de Rodri, ça l'empêchera pas effectivement de pouvoir être après dans les phases offensives, être déterminant comme il l'a souvent été.
Ouais, ce sera le choix de Gareth Southgate. Pour finir sur l'Angleterre, Valentin, justement, parce qu'on pose plus ou moins la question avec coach, mais cette composition à laquelle on peut s'attendre ce soir de Gareth Southgate, a priori pas de changement.
Non, il y a pas de raison. Alors peut-être que Julien pourra savoir, parce qu'il y a une petite incertitude. Ouais. On devrait avoir effectivement Pickford dans la cage, Walker, Stones et Gay pour les trois défenseurs, on va dire axiaux, même si Walker n'est pas forcément un axial de base. Est-ce qu'à gauche on aura Trippier, Rucho à voir, et après un milieu de terrain avec Meno et Rice, Saka à droite, et puis Foden et Bellingham qui pourraient être en soutien de Harry Kane. Voilà ce que pourrait mettre en place Gareth Southgate. Avoir les dernières tendances, s'il y a plus précis de la part de
Julien. Ouais, Julien, il y a une petite incertitude sur le côté gauche de la défense, c'est ça?
Ouais, sur Trippier qui serait pas complètement à 100%. Après, pour moi, c'est impossible de faire débuter Shaw dans un match pareil contre Lamine Yamal. C'est impossible. Même s'il aura Gay derrière lui, même s'il pourra avoir le soutien de Rice aussi, un joueur qui a pas débuté un match de foot depuis le mois de février, tu le mettrais dans une finale comme ça, même s'il a joué.
Il a joué un petit peu, ouais.
Oui, il a joué 45 minutes sur les deux derniers matchs et puis un bout de match sur le troisième. Enfin, pour moi, ce serait. Voilà. Après, si Trippier est pas à 100%.
Ouais. Quelles sont les alternatives, Julien?
Ah non, si mais c'est ça, mon Eric, c'est qu'il n'y a pas, en fait. À partir du moment où Southgate avait décidé de prendre que Shaw comme véritable arrière-gauche, il ne pouvait que mettre un droitier à gauche, un Trippier ou un Walker, et c'est tout. Mais moi, je trouve que déjà d'avoir pris Shaw dans la première liste, alors qu'il était blessé depuis février, en ne sachant pas vraiment quand il serait de retour, quand est-ce qu'il serait à 100%, 80%, 60%, pour moi, c'était déjà bizarre de ne pas prendre un autre arrière-gauche, même moins bon, mais un autre vrai arrière-gauche, vrai. Tu vois, vrai joueur dans ce poste-là, quoi. Donc, oui, ce sera Trippier ou Shaw, mais j'ai du mal à croire.
Du coup, ça va pas te faire changer d'avis sur les choix de Southgate.
Non, exactement.
Bon, merci beaucoup, Julien, d'avoir été avec nous. Je sais que tu vas trembler ce
merci
soir. On
se retrouvera
sur AMC, évidemment. Merci beaucoup, Valentin, pour les dernières infos.
Plaisir, bonne soirée à tous.
Merci, messieurs. Coach Eric, vous ne bougez pas. On se retrouve tout de suite sur AMC. On va parler de l'Espagne dans quelques instants avec Fred Hermel et Jeannot Rességuier. 18h29, l'Intégral Euro revient tout de suite.
RMC Intégral Euro.
Florent Moussy. 18h32, on est de retour dans l'Intégral Euro sur AMC. On vous accompagne jusqu'à 19h avant de retrouver Christophe Cessieux et toute l'équipe de l'After Tour pour revenir sur la 15e étape du Tour de France. Si vous l'avez manqué, nouvelle victoire de Tadej Pogacar. Après un mois de compétition, l'Euro touche à sa fin ce soir avec la finale entre l'Angleterre et l'Espagne. On est toujours avec Coach Courbis et Eric Roy. On a longuement parlé de l'Angleterre. Place maintenant à l'Espagne. Messieurs, peut-être le favori de cette finale. Fred Hermel est avec nous. Salut Fred.
Hola chico, c'est hola chica.
Salut Fred.
Et Jeannot Rességuier.
Content de saluer Eric, hein, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu.
Salut Fred.
Oui, que pendant l'année, il a d'autres occupations, c'est ça?
Il a une petite année chargée là. Celle qui arrive aussi va être chargée.
Plus encore.
Tu vas bien trouver contre un club espagnol.
Tu passes le bonjour à Michel, qui a fait aussi et qui a été l'équipe, l'entraîneur, je parle de Gérone, qui a été l'équipe surprise.
Ah, Gérone, c'était le poète d'Espagne.
Puisqu'on a été coéquipiers au Rayo Vallecano ensemble.
Bien sûr, à l'époque, on l'appelait Michel Primero. Tu te rappelles?
C'est
Michel Primero de Vallecas. Et les gens ne se rendent pas compte que Michel est une légende en Espagne.
C'est sûr qu'il n'a pas marqué.
Enfin, il est dans l'atmosphère Rayo Vallecano, de petit club,
oui, c'est ça.
Mais qui a avec un très fort caractère.
Mais
c'est
Michel.
Un type. L'Europe le connaît aujourd'hui, mais c'était quelqu'un de très connu en Espagne.
Bon, messieurs, notre vedette à nous aussi est avec nous, Jeannot Rességuier, depuis l'Allemagne. Salut, Jeannot.
Bonsoir, tout le monde.
C'est Jeannot qui est connu au-delà de Vallecas.
Salut, Jeannot.
Lui, c'est l'univers, hein, Jeannot.
Jeannot, on va parler avec toi de cette Roja qui s'avance clairement comme le favori de cette finale. On ne prend pas trop de risques en disant ça, a priori.
Et sur ce qu'ils ont produit depuis le début de la compétition, on a envie de répondre oui, parce qu'elle a été séduisante, elle a été efficace. Après, même s'ils ont terminé meilleure attaque pour l'instant avec 13 buts et seulement 3 encaissés, il y a eu des moments un peu plus compliqués. Je pense au match contre l'Italie, je pense au match contre l'Albanie. Donc là, on était dans la première phase. 8e de finale, on va dire, géré plutôt bien face à la Géorgie. Et puis après, l'Allemagne un peu plus compliquée et la France où ils ont encaissé ce but rapidement et où ils ont su réagir. Après, dans ce qu'ils proposent, dans la pratique du jeu qu'ils proposent, Il n'y a pas photo, c'est évident. Maintenant, quand on entend Luis de la Fuente hier parler à nos confrères espagnols en disant c'est une finale, il faut s'attendre à tout, il faut être concentré, il ne faut rien laisser au hasard. Il sait de quoi il parle. Hein. Il a été champion d'Europe U19 en 2015, champion d'Europe en U21 en 2019 en tant que coach, bien évidemment. Médaille d'argent à Tokyo. Il gagne la Ligue des Nations 2023. Vous imaginez s'il est champion d'Europe ce soir. Enfin, c'est juste impressionnant quand on voit que cette équipe s'est régénérée autour de ce gars-là qui n'avait qu'une expérience, entre guillemets, de formateur et qui est en train de réaliser quelque chose d'intelligent parce que finalement, des U19 jusqu'à la Ligue des Nations 2023, à chaque fois, on retrouve 1, 2, 3, 4 joueurs qui ont toujours fait partie des sélections retenues par Luis de la Fuente.
Ouais, c'est vrai Fred, c'est important de revenir sur ce parcours aussi de Luis de la Fuente. Et quand il est nommé, il succède à Luis Enrique. On est quand même sur deux profils et deux mondes complètement différents là.
Et puis Luis de la Fuente, personne ne le connaissait.
Bah oui.
Sincèrement, enfin, je veux dire, parce qu'il n'a pas été un grand joueur. C'était même un joueur de, enfin, voilà, de très, très, très modeste. C'était, en plus, il a pas une personnalité qui fait qu'on parlait beaucoup de lui dans les médias. En fait, il a été présenté un peu comme l'anti-Luis Enrique. C'est-à-dire que Luis Enrique est la grande gueule et lui, le type plutôt modeste, qui jamais un mot plus haut que l'autre, qui est. Qui cherche pas le buzz tous les jours, etc. Mais moi, ce qui me fait un peu marrer aujourd'hui, c'est qu'en Espagne, tout le monde applaudit Luis de la Fuente, mais tout le monde a oublié que s'il n'avait pas remporté la Ligue des Nations, il allait être viré au bout de 6 mois. C'est-à-dire que on considérait, bon, on l'avait pris à la va-vite après le départ de Luis Enrique après le Mondial du Qatar, en disant bon, c'est un coach de transition, puis on verra bien. Et puis on se disait non, c'est pas terrible avec lui, etc. Donc il avait de grandes chances. C'était même pas ça. Il y avait l'ultimatum où tu gagnes la Ligue des Nations ou tu t'en vas. Bon, il a gagné la Ligue des Nations et finalement ça marche pas trop mal avec lui. Hein.
Pari tenu jusque-là, c'est vrai, coach, quand on voit cette équipe que elle est équilibrée finalement. Il y a cette jeunesse dont parlait Jeannot et dont parlait aussi Fred, cette jeunesse qui est soutenue aussi par des joueurs d'expérience. On parlait de Rodri tout à l'heure.
Mais justement, c'est, si tu veux, la complémentarité, le bon équilibre. Quand on voit son parcours, et notamment avec des joueurs très, très jeunes, mais qui certainement ont dû progresser avec ses explications à lui, ben je suis pas surpris qu'il puisse faire des résultats. Et une fois de plus, on s'aperçoit que un joueur, c'est quand même assez spécial et assez compliqué. Il y a des joueurs, suivant le contexte, ben, qui sont bons. On a l'exemple de Ruiz. Ruiz qui est moyen au Paris Saint-Germain. Mais tu as l'impression que c'est son cousin Germain là, qui joue, en disant, tiens, il ressemble à Ruiz, celui-là. Oui, un petit peu. Donc, et ça, ben, quand je vois la façon de jouer de cette équipe espagnole, j'attends avec impatience de voir s'ils vont être capables de le répéter en finale, parce que je le dis toujours, je le répète, je le répéterai, une finale, c'est un match particulier, c'est pas un match comme un autre, c'est un événement.
Ouais, ça, c'est
mais
vrai.
Ils vont jouer comme prévu, hein. C'est d'ailleurs Luis de la Fuente l'a dit, mais qu'ils on vont va pas changer, qui va attaquer
comme prévu.
Voilà.
Dans la composition d'équipe, ok. Après, on va les voir sur le terrain.
Ouais, c'est vrai.
Non, mais tu sais, parfois en finale, tu peux dire oui, il y a peut-être un plan anti-machin.
Non.
Mais dire, on va jouer comme on a fait depuis le début.
Ils vont jouer comme ils veulent, comme ils l'ont fait depuis le début, certainement avec le même système, avec les mêmes joueurs. Alors, oui, s'il y a peut-être une incertitude ou deux. Mais après, ce que veut dire Roland, c'est que, à l'intérieur de cette volonté de jouer, est-ce qu'ils seront capables de sortir la performance dans une finale et dans un match qui reste un match particulier? Voilà, la réalité, elle est là. Et c'est vrai que s'ils sont au niveau de ce qu'ils ont fait depuis le début de ce championnat d'Europe, il y a des grandes chances qu'ils passent, surtout si l'Angleterre n'élève pas son niveau de jeu.
Ouais, c'est surtout ça. Et puis, Jeannot, on parlait un petit peu, voilà, de trois absences possibles. C'est vrai qu'il y en a, il y avait des absents en demi-finale contre l'équipe de France. Non, là, il y a des retours importants dans 11 aujourd'hui.
Il y a Carvajal qui était suspendu, et le Normand aussi. Alors Carvajal, moi je suis un peu surpris, très honnêtement, qu'il n'ait pris qu'un match. Repositionne le contexte.
Moi aussi.
On est d'accord. Oui. Il était sous le coup d'un avertissement.
Après son carton jeune.
Il prend un carton jaune.
Tu vas pas me dire qu'il était suspendu. Le Madrid est avantagé comme.
Oh non, non, ça non, non, pas alors, mais alors je me dis, ça y est, c'est l'Espagne. Roland va me lâcher des trônes, comme on dit, sur le Real. Non, il faut toujours qu'il revienne là-dessus.
Mais sérieusement, il a pris ce carton jaune qui le privait de la demi-finale, et derrière, il prend ensuite un autre carton jaune qui lui amène un rouge. dans n'importe quel niveau du football français et tout en bas aussi, et surtout c'est un plus un. C'est l'automatique et un supplémentaire.
On est dans un règlement de championnat d'Europe, on n'est pas dans un règlement de championnat.
Allez, jouons sous les mots. Et donc il y a le retour de Carvajal et le retour de Lenormand. Carvajal, lui, va être latéral droit. Et hier, c'est vrai que nos confrères espagnols étaient un peu surpris de voir Jesús Navas arriver en conférence de presse et se dire « Ah, tiens, la porte Navas, peut-être, en charnière, et pas le retour de Lenormand. » Donc il y a une interrogation
qui n'a peut-être pas duré longtemps.
Et je pense
c'est un cadeau à Navas parce que c'est son dernier match. C'est pour ça.
Oui, mais on est là. C'est un cadeau.
Le cadeau pour jouer.
Lenormand, on est d'accord.
Pas de jouer. Le fait de s'exprimer en conférence
d'être venu
de
en conférence de presse veille de venir,
il y a beaucoup de choses qui m'impressionnent dans cette équipe d'Espagne, pas seulement la façon de jouer, l'utilisation de certains joueurs, ce que fait Olmo en tant que remplaçant, et que quand il rentre c'est pratiquement l'un des trois meilleurs joueurs. Là c'est quoi, c'est grâce au sélectionneur ça
par exemple c'est ce qu'a dit Jeannot. Olmo il le connaît depuis qu'il est tout jeune parce que je crois qu'il l'a eu dans les sélections de jeunes.
Notamment avec le champion d'Europe des espoirs. Et c'est quelqu'un, souvenez-vous, quand Pedri se blesse au bout de 8 minutes de jeu, qui rentre, qui prend la place et qui donne le sentiment d'avoir toujours joué comme ça. Or, quand tu regardes ce qu'il fait avec le RB Leipzig, il a souvent été baladé, pas en tout cas utilisé comme il est utilisé par Luis de la Fuente derrière les deux attaquants, ou derrière un attaquant, et peut-être les deux, Williams et Yamal, qui peuvent éventuellement repiquer dans l'axe et laisser la possibilité à ce moment-là à Olmo de dégager à gauche ou de dégager à droite. Mais c'est quelqu'un qui, dans l'esprit de Luis de la Fuente, est capable d'avoir ce poste-là. Peut-être que ça donnera des idées à l'entraîneur du RB Leipzig.
Un duo, Olmo, Ruiz, qui sont exactement de la même façon dans leur club, totalement différent qu'en équipe nationale. Et c'est difficile de chercher le pourquoi.
Est utilisé différemment. Fabien Ruiz, il est utilisé de cette manière par Luis Enrique, sauf qu'il ne joue pas assez souvent.
On parlera de
positionné de à côté Fabien de Rodri dans l'entrejeu.
Oui, on en parlera évidemment de Fabien Ruiz dans quelques instants. Fred, aussi, qu'on peut souligner aussi avec Luis de la Fuente, c'est cette capacité d'avoir créé une vraie équipe en Espagne. Tu nous le disais aussi hier, avant la sélection espagnole, c'était la moitié du joueur du Barça, l'autre moitié joueur du Real Madrid. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il a vraiment été chercher des joueurs aussi dans d'autres clubs.
Les Basques.
Oui, parce qu'il n'avait pas forcément le choix. parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup moins de joueurs du Real qui sont en sélection, un petit peu plus du Barça. C'est aussi parce que on considère dans ces clubs-là qu'il y a un creux générationnel et qu'il n'y a pas de joueurs qui s'imposent totalement et que ces clubs-là vont chercher plutôt des joueurs à l'étranger. Donc,
après Fred, si je peux me permettre, toi qui connais mieux le football espagnol,
il compose avec ce qu'il a aussi.
Ouais, et après il va utiliser à Bilbao et à Sociedad parce que ça forme, parce qu'il y a des jeunes et que ces jeunes-là, super, il les a utilisés chez les gamins. Après on met un bémol, on est d'accord. Laporte et Lenormand, que je sache, ils sont français. C'est la charnière espagnole. Quelque part, il y a un souci quand même à ce niveau-là.
Alors bon, l'année prochaine, ça ira mieux parce que Cubarsí qui va jouer les JO avec la sélection espagnole. Cubarsí, on sait très bien que le jeune défenseur central barcelonais sera l'avenir en charnière centrale de cette sélection espagnole, tellement il est fort. S'il continue sa progression, s'il continue à être aussi bon que ce qu'il a montré cette saison au Barça, il va progresser et il va être incontournable. Mais c'est vrai que, sincèrement, vos regards, à part Rodri, vraiment, qui est reconnu dans le monde entier à ce poste, vous prenez poste par poste. Avant cet euro, personne ne pouvait considérer qu'à chaque poste, il y avait l'un des trois meilleurs joueurs du monde dans cette sélection espagnole.
C'est d'ailleurs pour ça que l'Espagne faisait partie des outsiders de la compétition et pas des favoris. Voilà.
Absolument.
Mais il s'est passé quelque chose, j'ai trouvé une expression que je n'arrête pas d'utiliser depuis deux jours, qui est la mayonnaise a commencé à prendre face à la Croatie, et elle a continué. Là, elle a pris, et maintenant, il faut la savourer.
On va voir s'il la savoure ce soir.
C'est l'union de jeunes, de vieux, de promesses, de joueurs d'expérience comme Carvajal.
Pour le dessert, c'est pas terrible.
parce que pour le roast beef anglais, tu sais, c'est pour le roast beef anglais, la mayonnaise. Quand tu manges le roast beef, tu ajoutes la mayonnaise.
Ça. Bon, messieurs, ne bougez pas. On revient dans quelques instants. On continue de parler de cette finale. On va parler des stars de cette équipe espagnole et notamment du jeune Lamine Yamal. 18h44 sur RMC, l'intégral Euro revient tout de suite.
RMC, intégral Euro.
Flora Moussi.
18h47 sur RMC, c'est la dernière ligne droite de l'intégrale Euro 2024. Dans moins d'un quart d'heure maintenant, c'est votre rendez-vous cyclisme avec l'After Tour. Christophe Cessu et toute l'équipe pour débriefer cette 15e étape du Tour de France et la nouvelle victoire de Tadej Pogacar. On est toujours avec Coach Courbis, avec Eric Roy avant la grande finale de l'Euro entre l'Angleterre et l'Espagne. Jeannot Rességuier et Fred Armel sont toujours avec nous. On a parlé des stars de l'Angleterre tout à l'heure. Place à celle de l'Espagne maintenant. Jeannot, clairement, l'homme qui a tapé dans l'œil de tout le monde, c'est Lamine Yamal. Et ça y est, il a 17 ans. Hein. Il est grand maintenant.
Oui, depuis hier. Il a eu droit à un happy birthday de la part de Harry Kane en conférence de presse parce qu'on lui a posé la question en lui disant « Ça vous fait quoi que Lamine Yamal ait 17 ans ?» Bon, voilà, il lui a souhaité bon anniversaire. Ça l'a fait d'ailleurs sourire. Moi, je veux parler de Yamal, mais je veux parler de Williams aussi, hein, ouais. Parce que les deux sont très intéressants. Et quand tu vois justement la mise en place du schéma tactique et la prise de décision de Luis de la Fuente de mettre ces deux gamins. Bon, l'autre, il a 21 ans. Yamal, il a 17 ans. Et d'avoir marqué ce but contre l'équipe de France, ça a marqué les esprits, mais ça fait le tour du monde. Et c'est quelqu'un, moi ce qui me rassure, alors après j'aimerais entendre Eric et coach là-dessus, mais ce qui me rassure, c'est que quand on explique et même très souvent en France, le fait qu'il faut qu'on fasse confiance aux jeunes, mais pas trop vite. Quand je vois Warren Zaïre-Emery qui s'est retrouvé à cirer le banc pendant tout ce championnat d'Europe, alors que peut-être il aurait été plus utile avec les Jeux Olympiques, ou alors lui donner un petit peu de confiance, ce garçon-là, il méritait plus. Et on nous dit, ah oui, non, mais bon, il y a d'autres plus expérimentés. Mais Yamal, il a 16 ans, donc il a 17 ans depuis hier, et il a la confiance de son coach. On ne peut pas faire ça en France, on ne peut pas y arriver. À donner un peu plus de temps de jeu à des gamins et à leur permettre d'éclore. Quelque part.
Non, mais je le laisse terminer.
Oui.
Non, mais justement, je te pose la question, coach. Ouais. Quelque part, est-ce que vraiment, on ne peut pas avoir la possibilité, alors peut-être pas à ce poste-là, ou peut-être si, avec Barcola, donner plus de temps de jeu à des jeunes. Ce que fait De La Fuente, ok, il est passé comme un formateur avec les titres qu'on évoquait de U19 et de U21, mais au moins, il a amené cette confiance à des jeunes joueurs. Et il est récompensé.
C'est par besoin aussi, hein, Jeannot, hein, tu sais.
Mais oui, mais par besoin. Aussi. N'empêche que ça a marché, Fred.
Ouais, ah bah oui, il y a deux choses.
Mais n'empêche que ça a marché, choses. Quoi.
C'est par besoin et après, il te faut un phénomène aussi. Je veux dire, le talent n'a pas d'âge. Et c'est vrai que si à 16 ans et demi, 17 ans, eh ben, tu peux être au niveau d'un champion d'Europe, tu vas jouer naturellement. Mais comme Mbappé l'a fait en France chez nous, à un moment donné, c'était évident pour ses entraîneurs que même s'il était très jeune, qu'il devait être. Et c'est vrai qu'en France, on a toujours quelque part un petit peu cet esprit de dire les jeunes, il faut pas les brûler trop vite, il faut pas ci, il faut pas ça. Quelquefois, c'est des excuses aussi parce que l'entraîneur pense qu'ils ont pas le niveau, pas encore le niveau pour être lancé.
Ouais,
mais
bon, pas...
quand il y a vraiment un très grand talent, ça devient évident, quoi.
C'est oui, mais bon. Et ce que fait Yamal en équipe nationale, il le fait à Barcelone. Ce que fait Williams en équipe nationale, hein. Il le fait à Bilbao aussi. Oui, mais d'empêche qu'il le fait.
Non, mais ce qu'il y a de dingue, c'est pour ça, pour aller dans ton sens, ce qu'il y a de dingue, c'est que c'est depuis le mois de janvier qu'il joue Lamine Yamal.
Il peut pas jouer depuis 2-3 ans parce qu'autrement, il aurait commencé à 14 ans en même temps.
ça n'empêche pas.
Non, je veux dire, c'est récent. C'est même pas du début de saison, c'est du début de l'année civile.
On peut ne pas passer d'une extrémité à l'autre. Donc, un joueur de 17 ans, talentueux, il n'y a aucune raison qu'on ne l'utilise pas, mais il y a façon de l'utiliser et nombre de minutes de l'utiliser. Pour quand même être prudent, que Lamine Yamal soit un phénomène, mais ça se voit. Mais par exemple, Barcola, si on peut aller faire un petit peu la comparaison, chaque fois que je le vois jouer, je le vois intéressant. Mais tu n'es pas obligé de le faire jouer 95 minutes.
Mais 116 minutes sur le championnat d'Europe.
Mais par contre,
je suis désolé, je dévie sur la France. 116 minutes, Barcola, quand tu vois que ce qu'il a apporté a été quelque chose d'intéressant à chaque fois qu'il est entré. Mais moi, je me pose la question. Mais c'est à ce quoi que ça sert de prendre ces joueurs-là?
C'est ce que je suis en train de te dire. Un Barcola, sans le faire jouer les 95 minutes, tu peux quand même l'utiliser un peu plus. Donc ça, c'est une gestion qui aurait pu être meilleure et qui pourra être meilleure, puisque on a justement des exemples, et malheureusement, on les a chez les autres, mais de regarder ce qui se passe chez les autres pour pouvoir donner des idées, c'est pas interdit.
Ouais, et puis Fred, tu nous disais aussi, Lamine Yamal, qu'il n'y a pas longtemps qu'il a éclos non plus avec le Barça.
Hein. Non, bien sûr. Non, non, bien sûr, parce qu'il y avait un besoin au Barça. Et ce qui est très bien, c'est que le sélectionneur Luis de la Fuente a su, parce que c'était un pari. Après, oui, c'était un pari risqué, certes, parce qu'on ne savait pas comment un joueur aussi jeune allait réagir dans une grosse compétition avec la pression qui va avec. Mmh. Et après, il était bien entouré. Il y a le rôle de Carvajal aussi, on l'a vu, parce que ça s'est vu physiquement. Quand Lamine Yamal a fait une passe décisive pour un but de Carvajal, on a vu que le jeune Barcelonais et le vieux Madrilène commencent à avoir une célébration commune. Il l'a pris sous son aile, etc. Et cette image d'union, elle a fait du bien aussi. C'est-à-dire que ces jeunes sont encadrés aussi par des joueurs qui ont des forts caractères et qui ont une grosse expérience. Donc ça aide aussi, quoi.
Tu vois, par exemple, t'imagines que Carvajal, il a 48 sélections et que celui qui lui a offert son premier but en équipe nationale, il a 16 piges, il s'appelle Yamal. Non, mais ça fait rêver quand tu vois ça.
Il pourrait être son père.
Exact. En plus, il a 32 piges, Carvajal.
Il y a deux joueurs qui sont des gauchers jouant côté droit. Ça, Eric, il sait très bien qu'on en a vu tout au long de notre carrière. Mais là, on est à la veille des commentaires qu'on va faire sur cette finale de ce soir. Mais je vais regarder Lamine Yamal. Donc je vais voir un petit peu, comme un passionné que je suis, ce qui va se passer. William aussi, moi je le trouve extraordinaire.
Ah, moi j'aime.
Mais bon, si par exemple ce soir dans un match qui est quand même un événement pour quelqu'un qui vient d'avoir 17 ans, et que ce soir on a un Lamine Yamal moyen, on va pas dire que c'est une déception. Et ça, j'attends avec impatience de voir son match, parce que je le dis, je le répète, c'est pas un match comme les autres, le match de ce soir.
Ouais. Une chose qu'on n'a pas dit quand même, c'est qu'avec ces deux jeunes et avec Morata entre les deux, ça donne une option supplémentaire à l'Espagne qu'ils n'avaient pas forcément avant, dans cette capacité bien sûr à bien gérer le ballon, avoir la possession, mais aussi quelque part des fois être dangereux sur la transition et avec la vitesse. Ça donne aujourd'hui après, une option supplémentaire à cette équipe d'Espagne.
Deux faux pieds extraordinaires en plus.
Ouais, bien sûr.
Quand tu vois ce qu'ils sont capables de faire, l'un à droite avec le pied gauche, l'autre à gauche avec le pied droit, ça fait rêver, quoi.
Par rapport à ce que dit coach Roland, c'est vrai que le début du match de l'Espagne contre la France, il est très poussif. Et on peut dire quelque part que c'est l'espoir de Yamal qui les remet dans le jeu, dans le match.
Absolument.
Parce qu'avant qu'il marque ce but-là, et il se passait pas grand-chose et les Français dominaient le match et avaient en plus ouvert le score. Donc c'est vrai que. Donc c'est vrai que quelque part, ce but-là, il a changé quand même la physionomie de la demi-finale.
Ouais, il y a ces jeunes, effectivement, et puis il y a les autres aussi dont on parlait. On a redécouvert un joueur, tu l'as évoqué tout à l'heure, coach, c'est Fabián Ruiz, méconnaissable par rapport à son niveau au Paris Saint-Germain. Comment on peut expliquer, justement, est-ce que, tiens Fred, en Espagne, on était surpris aussi du niveau de Fabián Ruiz.
Eric l'a dit, quand tu joues à côté de Rodri,
mais Fabián Ruiz,
il faut que le PSG recrute Rodri, quoi, c'est ça que tu es en train de nous dire, d'accord.
Je pense que tout le monde veut Grody dans l'Europe, à commencer par le Real.
Mais Rodri, tu l'as au PSG avec Vitinha. Tu peux faire Vitinha Fabián Ruiz, moi je suis désolé. Fabián Ruiz, il est titulaire avec l'Espagne et il n'est pas titulaire avec le PSG. Donc il y a quand même aussi une notion de confiance avec le coach et le joueur.
Mais Rodri, c'est le meilleur milieu défensif du monde. Donc le boulot qu'il fait est parfois invisible pour les non-spécialistes. Il est tellement énorme. Ça libère tellement ces joueurs-là. Olmo et Rodri et Fabián sont totalement libérés et sûrs d'eux-mêmes parce qu'il y a un monstre derrière eux.
C'est un poste qu'on a connu avec Guardiola, numéro 6, meneur de jeu.
Eh oui,
c'est ça. En plus, vous avez vu où est-ce qu'il va chercher les ballons, Fabián Ruiz. Il va très très haut au pressing. C'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de voir avec le PSG. Mais moi, je vous entends par rapport à Rodri. Mais quand un joueur comme Vitinha qui a explosé au monde entier cette saison, tant avec le PSG et d'ailleurs avec l'équipe nationale du Portugal, moi je suis désolé. Mais si tu fais Vitinha, Fabián Ruiz, ça doit pas être dégueulasse au PSG.
Je te donne une idée. Et je pense que Eric se rappelle, et d'ailleurs je vois un petit peu le talent d'Eric dans ce qu'il fait et dans ce qu'il arrive à faire avec un effectif qui est un effectif bon, mais bon, pas non plus très très bon. Et ça, ça fait partie du boulot. Mais si par exemple, je te donne une idée, après bonne ou mauvaise, ça aurait été la mienne. J'avais eu la difficulté ou l'angoisse de rencontrer une équipe avec Rodri, et bien même si c'est plus à la mode, j'aurais choisi un de mes joueurs en lui disant tes coéquipiers ils vont jouer contre l'Espagne, toi tu vas jouer comme Rodri. Mais je veux même pas que quand nous avons le ballon, tu sois disponible. tu restes à côté de Rodri.
J'y suis Rodri comme toi.
À l'ancienne.
C'est ça. Même s'il va pisser, tu vas aux toilettes avec lui.
Moi, j'irai pas jusqu'au boutisme de Roland, mais il est évident que tu es obligé, quand tu joues contre une équipe où il y a Rodri, tu es obligé d'essayer de limiter son influence. Et pour limiter son influence, tu as deux choses. Un marquage individuel, comme il en a parlé, ou un marquage de zone. Mais il est évident que même si tu fais de la zone, ben tes milieux de terrain, ils sont obligés, dès que le ballon va approcher de Rodri, d'être toujours très près de lui, parce que c'est lui qui dicte le jeu, le tempo. C'est lui qui imprime effectivement cette confiance aussi à l'équipe.
Mais Eric, tu réussis ton coup. Le fait que la confiance et le talent que transmet Rodri à ses coéquipiers, et que tu arrives justement avec une bonne distance de marquage, dès qu'il touche le ballon, tac, 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 tac. Ben et, ouais, et que tu arrives à lui faire perdre un premier ballon, mais c'est comme si tu leur mettais un coup de marteau sur la tête.
Donc Bellingham peut faire ça ce soir.
Roland, ben c'est ce que c'est l'enjeu de ce match.
Je serais pas étonné et je serais agréablement surpris et très content
de le voir faire ça.
Ouais. Et moi je dis même pas qu'il faut le pousser à perdre des ballons. Je dis juste qu'il faut l'empêcher à pouvoir organiser le jeu comme il le fait et comme il a pu le faire contre la France, c'est-à-dire d'être beaucoup plus proche de lui pour l'obliger effectivement à avoir un jeu plus minimaliste, tout simplement, déjà, parce que lui, des ballons, malheureusement, il n'en perdra pas. Oui. Même
si, tu t'imagines si le sélectionneur il écoute RMC de l'Angleterre et qu'il fait ça ce soir et que ça marche.
Disons que je pense que si Julien avait été sympa et qu'il l'aimait bien, il l'aurait mis effectivement à l'antenne.
Non, mais laisse tomber. C'est pas la peine.
Bon, mais si on a donné les principales clés de ce match, on va en parler toute la soirée évidemment sur RMC. On va remercier Jeannot, Fred d'avoir été avec nous.
Un petit clin d'œil à notre arbitre François Le Texier, quand même,
qui
va arbitrer ce soir avec ses assistants habituels, Cyril Munier et Mehdi Ramouni. Il y aura également Jérôme Brizard, quatrième arbitre, et puis Willy Delageau qui sera l'arbitre, l'assistant vidéo. Ouais, j'arrive. Et juste un dernier mot, parce qu'il y a quand même un autre Français à l'honneur. Il a réalisé la finale de la Coupe du Monde, c'est Laurent Lachand, qui va en plus réaliser ce soir la finale du Championnat d'Europe. Donc un petit cocorico comme ça fait pas de mal.
Il y a quelques Français sur la pousse. Merci Jeannot, merci Fred, on vous retrouve ce soir évidemment sur AMC.
Salut les amis.
Merci Eric d'avoir été avec nous.
Merci Flora, merci Roland, bisous. Merci à tous.
Allez, dans quelques instants, c'est l'After Tour avec Christophe Cessieu et toute l'équipe. Restez bien sur AMC.